Chapitre 6. En cette saison, à l'heure où l'on revient du bois, les voitures vides et les cochers cherchant pratique foisonnent aux Champs-Élysées. Deux victorias libres passaient en ce moment à la file, marchant au pas vers la place de la Concorde, en rasant le trottoir de la contre-allée. Brunachon interrogea d'un coup d'œil le clubman, qui répondit par un signe affirmatif et sans attendre un ordre plus formel. Brunachon sauta dans la première. Le sort en était jeté. Servon monta dans la seconde, qui n'était pas loin, et dit à son cocher de suivre. Brunachon avait rapidement donné ses instructions au sien, qui mit son cheval au trot. Le vicomte n'avait plus qu'à se laisser aller au courant de cette curieuse aventure, et il commençait à y prendre un certain plaisir. L'attrait de l'inconnu. Il lui était arrivé assez souvent de suivre une jolie femme sans savoir où elle le conduirait. C'est un sport amusant pour un désœuvré qui se console facilement d'être distancé en route. Cette fois, il était sûr que pareil déconvenu ne lui arriverait pas, et l'intérêt était plus vif car il ne pouvait pas deviner le dénouement. Brunachon avait refusé de dire où il allait, et il s'était abstenu de donner la moindre indication sur la direction qu'il comptait faire prendre à sa Victoria. Elle descendait l'avenue des Champs-Élysées, et cela prouvait seulement que Brunachon ne se dirigeait pas vers les excentriques et élégants quartiers de l'Ouest, Passy, l'Étoile, le Faubourg Saint-Honoré. Brunachon se dirigeait vers le Paris central. En débouchant sur la place de la Concorde, la Victoria, qui le portait, obliqua à droite et enfila le pont. Servon était fixé, on allait sur la rive gauche. Et une idée lui vint tout naturellement. Brunachon lui avait appris que l'amant de la marquise habitait le Quartier Latin. Servon ne douta pas que Brunachon le conduisit chez cet étudiant auquel il se proposait de faire subir un interrogatoire en présence du vicomte et qui n'y tenait pas du tout car il n'aurait rien gagné à mettre Paul Cormier au pied du mur. Ce garçon, s'il fallait en croire Brunachon, demeurait rue Gay-Lussac. Le vicomte se promit de laisser Brunachon monter tout seul chez le faux marquis si la Victoria s'arrêtait à la porte du numéro 9. Pour le moment, elle suivait le quai d'Orsay, et c'était à peu près le chemin de la rue Gay-Lussac. Après le quai d'Orsay, elle prit le quai Voltaire, mais au lieu de tourner par la rue des Saints-Pères, pour arriver presque directement au Luxembourg, elle continua par le quai Malaquais et par le quai Conti, en passant devant l'Institut et devant la Monnaie, puis laissant le pont Neuf à gauche, elle se lança sur la pente du quai des Augustins. « Bon, se dit Servon, toujours imbu de l'idée qu'on allait chez Cormier, il va prendre le boulevard Saint-Michel. Ce cocher n'a pas le sentiment de la ligne droite, mais c'est le chemin tout de même. Je me laisse faire. Seulement, je lâcherai ce drôle à la porte. Il faut en vérité qu'il soit stupide pour s'imaginer que je vais me présenter avec lui chez ce jeune homme. » La résolution était louable, mais le vicomte n'eut pas besoin d'y persévérer. Arrivé à la place Saint-Michel, au lieu de remonter le boulevard, la voiture qui portait Brunachon s'engagea sur le pont qui aboutit dans la cité. « Mais c'est inouï !» grommela Servon. Le voilà qui revient sur ses pas à présent. Ah, ce n'était pas la peine de passer la Seine au pont de la Concorde pour la repasser 10 minutes après. Mais où diable me mène ce Brunachon? Est-ce qu'il se moque de moi et a-t-il le projet de me traîner à sa suite à travers tout Paris? Non, il n'oserait pas. Mais où allons-nous? Ah, cette rue qui traverse l'île, c'est le boulevard du Palais. Et voici le palais lui-même. Oh, j'aime à croire qu'il n'a pas l'intention d'y entrer pour avertir la justice. Le vicomte n'avait assurément rien à démêler avec la justice de son pays, mais s'il avait su que le nommé Brunachon avait passé toute l'après-midi la veille dans le cabinet d'un juge d'instruction, il se serait arrêté plus longtemps à l'idée singulière qui lui était venue. Non, du reste, il n'y avait pas lieu, car la Victoria tourna rapidement à droite pour traverser le parvis Notre-Dame. Cela devenait incompréhensible et l'aventure tournait presque au comique. Il y a sur le parvis que Notre-Dame et l'Hôtel-Dieu, une église et un hôpital. On ne pouvait pas supposer que Brunachon allait visiter un malade ou allumer un cierge devant l'autel de la Vierge. Et où allait s'arrêter cette promenade? Le vicomte ne cessait de se le demander, mais il ne songeait plus à abandonner la partie car il supposait qu'on approchait du but. Le parvis ne mène à rien qu'à l'île Saint-Louis, et Servon ne se figurait pas que son étrange guide pût aller dans ce paisible quartier chercher des renseignements sur l'excentrique marquis de Ganges. Brunachon avait pourtant l'air de savoir parfaitement ce qu'il faisait. Depuis qu'on roulait, il s'était retourné plus d'une fois pour s'assurer que la voiture du vicomte suivait, et la dernière fois, en arrivant sur la place Notre-Dame, il avait adressé de loin au persévérant clubman un signe qui signifiait sans aucun doute « Oh, ne vous impatientez pas, nous y sommes ». Et Servon, quoique vexé d'être véhiculé de la sorte, lui savait gré d'observer les conventions en s'abstenant de communiquer avec lui autrement que par geste. Mais il ne devinait toujours pas où on allait. La Victoria de Brunachon s'engagea dans une rue sombre que domine à droite la masse colossale de la cathédrale, la rue du Cloître qui n'est ni large ni longue et où de sa vie le vicomte n'avait passé. Il ne cherchait plus à se rendre compte des chemins qu'on lui faisait prendre et il lui arrivait de se demander ce que les deux cochers devaient penser de cette course à la queue-leu-leu de deux messieurs qui se connaissaient évidemment et qui avaient éprouvé le besoin de prendre deux voitures au lieu d'une. Au bout de la rue du Cloître, celle qui marchait en tête s'arrêta, et M. de Servan dit aussitôt à son cocher d'en faire autant. Brunachon descendit, et M. de Servan s'empressa de descendre aussi. C'était le moment décisif. Brunachon allait-il aborder le vicomte et lui expliquer pourquoi il l'avait amené là? Pas du tout. Brunachon, fidèle à sa promesse, se contenta de lui montrer du doigt la grille le long de laquelle les deux Victoria étaient rangées à 10 pas d'intervalle. Cette grille entourait une manière de square, plantée d'arbres rabougris et garnie de bancs vermoulus, un square pauvre où jouaient les enfants malingres et où de vieilles loqueteuses se chauffaient au soleil. C'était bien là l'endroit désigné par Brunachon qui avait engagé le vicomte à l'y attendre pendant qu'il irait lui se renseigner sur la vraie situation de Madame de Ganges. Mais se renseigner où et auprès de qui? Il ne l'avait pas dit. Et Servon, qui n'en avait pas la plus légère idée, le vit entrer avec d'autres personnes dans un bâtiment adossé au parapet du quai à la pointe de la cité et d'assez triste apparence. Cela ressemblait à l'une de ces constructions qu'on voit de distance en distance sur les bords de la Seine depuis le pont de Bercy jusqu'au viaduc d'Auteuil et où sont les bureaux des employés de la navigation. Servon ne s'inquiéta point de savoir ce que c'était et ne fut pas tenté d'y entrer à la suite de Brunachon. Servon appartenait à cette catégorie de Parisiens qui ne connaissent de Paris que les quartiers habités par les heureux de ce monde. Ils pouvaient se vanter de n'avoir jamais mis les pieds dans les parages où logent les déshérités, car ils ne les avaient traversés qu'en voiture, en se rendant à quelques gares de chemin de fer. Il n'était pas entré au jardin des Plantes depuis son enfance, et s'il avait aperçu les tours de Notre-Dame, c'était de loin, et pour ainsi dire malgré lui, car il ne s'était jamais arrêté pour les admirer. Il savait donc à peine où il était, et il n'avait pas, comme les étrangers qui visitent pour la première fois la grande ville, un guide du voyageur dans sa poche, à seule fin de ne pas s'égarer et de se renseigner sur la destination des monuments. Peu lui importait d'ailleurs, pourvu que Brunachon revint promptement mettre fin à ses incertitudes. Il entra dans le square, et n'ayant garde de s'asseoir sur des sièges publics d'une solidité et d'une propreté douteuses, il se mit à se promener par les allées, après avoir allumé un cigare. Il remarqua bientôt que beaucoup de gens qui passaient sur le quai se détournaient de leur chemin pour entrer, comme Brunachon, dans le petit édifice long et bas qui faisait face à l'entrée du square. D'autres en sortaient. C'était un va-et-vient continuel. De cette affluence, le vicomte conclut judicieusement qu'il y avait là-dedans une succursale du Mont-de-Piété, et se demanda de rechef ce que l'ancien garçon de jeu était allé chercher là. Il commençait d'ailleurs à en avoir assez de cette énigmatique expédition, et il se promettait de planter là Brunachon pour peu qu'il tardât à reparaître. Il se trouvait même un peu ridicule de s'être laissé embarquer par ce drôle dans cette campagne policière, et il jurait bien qu'on ne l'y reprendrait plus, quel qu'en fût le résultat. Il n'attendit pas trop longtemps. Au bout de 10 minutes, il vit Brunachon descendre les marches qui précèdent la maisonnette où il était entré, et impatient de l'interroger, il fit quelques pas pour se porter à sa rencontre, mais il se ravisa en voyant Brunachon lui indiquer d'un signe de tête le fond du square où il n'y a absolument personne et où il pourrait causer sans attirer l'attention. Brunachon donnait au vicomte une leçon de prudence, et le vicomte s'y conforma. Il lui sut même gré de sa discrétion, car l'affaire semblait se corser, et Monsieur de Servon tenait de plus en plus à ne pas être vu conférant avec ce suspect personnage. Brunachon passa, sans lui dire un seul mot, tout près du clubman qu'il avait promptement rattrapé, et alla s'embusquer dans un coin du terrain qui s'étend au-delà du square entre les hauts contreforts de Notre-Dame et le parapet du quai de l'Archevêché. Servon vint l'y joindre, un peu étonné de le voir prendre tant de précautions, et l'interrogea des yeux. « Monsieur le vicomte avait deviné !» lui dit Brunachon. « Moi, je n'y voulais pas croire. »« Croire à quoi ? Expliquez-vous clairement, sacrebleu. Madame la marquise de Ganges est veuve. »« Veuve ? » s'écria le vicomte. « Mais qu'en savez-vous ? » »« Je viens de m'en assurer, » répondit tranquillement Brunachon. « Comment ? Est-ce qu'à dire que vous venez de voir l'acte de décès de son mari ? C'est donc une mairie, ce vilain petit monument ? Non, ce n'est pas une mairie, dit l'ancien garçon avec un sourire qui ressemblait à une grimace. Alors qu'est-ce que c'est ? Oh, monsieur le vicomte plaisante. Monsieur le vicomte n'ignore pas. Non, je vous dis que je n'en sais rien. C'est la première fois de ma vie que je viens ici, et si vous croyez que je me suis amusé à interroger les gens déguenillés que j'ai vus dans le square. Oh, je pense bien que non, mais je n'ai plus qu'une prière à adresser à monsieur le vicomte. Oh, s'il s'agit de rouler encore à travers Paris, je vous préviens que je n'en suis plus. Non, 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 j'attendrai ici. Et monsieur le vicomte n'a qu'à entrer. Mais où ça? Ben, dans le bâtiment d'où je sors. Monsieur le vicomte verra par lui-même. Et après, si monsieur le vicomte veut bien venir me rejoindre, je lui expliquerai ce qu'il n'aura pas compris. Soit, dit Servon agacé, j'y vais, mais je vous préviens que si je m'aperçois que vous vous êtes moqué de moi, vous vous en repentirez. Et pendant que Brunachon protestait contre cette supposition, le vicomte traversa le square presque en courant et monta vivement les marches qui précédaient une espèce de péristyle au-delà duquel s'étendait comme un paravent un mur qui masquait l'intérieur de l'édifice. Pour entrer, il fallait tourner par la droite ou par la gauche, ce mur ouvert aux deux bouts. Ainsi fit-il, et il se trouva dans une vaste salle carrée, dont les parois en stuc poli étaient couvertes de longues inscriptions qu'il ne prit pas la peine de lire. Éclairé par en haut, ce hall ressemblait vaguement au vestibule d'un musée. Le vicomte continuait à ne pas comprendre. Il remarqua pourtant que les gens qui entraient se dirigeaient tous vers un vitrage qui barrait le fond de la salle et défilaient devant cette clôture en verre comme on passe devant les étalages d'un bazar. Ils ne s'arrêtaient qu'au bout et là, un groupe s'était formé et deux sergents de ville, de service, veillaient à ce que les curieux ne stationnassent pas trop longtemps. « Circulez, messieurs, circulez !» Cet avertissement, souvent répété, accélérait le défilé. Dans ce coin, évidemment, se trouvait ce que les Anglais appellent « the great attraction », mais du diable si Servon devinait ce qu'on montrait là, qui put intéresser cette foule empressée. Afin de le savoir, il se mit à la queue comme les autres, et en s'approchant, il vit derrière la vitrine une double rangée de tables de marbre, dont deux étaient occupées par deux cadavres de noyés vert, bleu, violet, hideux. Cette fois, Servon fut fixé sur la destination de l'édifice. « Ce drôle m'a amené à la morgue, » dit-il entre ses dents. « Oh, il m'a fait une farce funèbre !» Il me la paiera. Il allait battre en retraite, car il n'avait aucun goût pour les spectacles lugubres, mais il se ravisa. Non, reprit-il en se parlant à lui-même, il n'aurait pas osé me berner de la sorte. En me poussant à entrer, il a eu un but, mais lequel ? Est-ce que le marquis de Ganges? Mais oui, c'est cela. Cet homme vient de le reconnaître couché sur un dindon noir. Oh, je serais bien empêché de le reconnaître, moi qui ne l'ai jamais vu vivant. Et alors même que je l'aurais vu, je ne le reconnaîtrais pas davantage. S'il est dans le même état que ces deux corps, qui n'ont plus figure humaine. Servon s'aperçut bientôt qu'il y en avait un troisième, celui qui attirait le public, celui qui faisait recette, comme disent les habitués de l'établissement. Il suivit le mouvement et il vit que ce mort était beaucoup mieux conservé que les deux noyés. Il était exposé au premier rang, tout près du vitrage, et on ne l'avait pas déshabillé. Il était vêtu d'un pantalon de fantaisie et d'une chemise fine avec au poignet des boutons de manchettes en or. On avait enlevé la cravate et ouvert la chemise afin qu'on pût voir à nu la poitrine trouée au-dessous du sein droit. Il avait dû mourir très vite et sans souffrir car la figure était calme. On aurait dit qu'il dormait. Oh, celui-là certainement n'appartenait pas à la même catégorie sociale que les malheureux qui figurent ordinairement à la morgue, et autour du vicomte, tout étonné, les commentaires pleuvaient. Bon, voilà, qui sait pas suriner, hein. L'estomac parce qu'il avait plus de quoi béquiller. Non, c'est un Rupin. Il n'aurait eu qu'à porter ses boutons chez ma tante. On lui aurait prêté dessus au moins 30 balles avant qu'il ne soit en toque. Pas de danger, c'est un zig de la haute que je te dis. Et c'est pas lui qui l'a suriné. C'est des escarpes, oh, là-bas, du côté de la porte de Montrouge. Circulez, messieurs, circulez! Cria un des sergents de ville. Le vicomte, qui en avait assez vu, circula, mais il ne se pressa pas trop de sortir. Il était fixé maintenant. Ce mort, c'était le marquis de Ganges, que Brunachon avait cru reconnaître. Et si Brunachon ne s'était pas trompé, il était jusqu'à présent le seul qui l'eût reconnu, puisque le corps restait exposé. Les morts reconnus sont enlevés immédiatement. À Paris, chacun sait cela, et Servon l'avait entendu dire, comme tout le monde. Mais comment ce mari de la marquise, le vrai, était-il venu se faire assassiner à Paris en arrivant de Monte-Carlo? S'il fallait en croire l'ancien garçon de jeu qui disait l'y avoir vu. Servon ne le devinait pas, et ce n'était pas de ce côté-là de la question qui le préoccupait le plus. Pour le moment, il ne pouvait même mieux faire que d'aller retrouver l'homme qui l'attendait et de lui demander des explications supplémentaires. Brunachon était à son poste et il accueillit le clubman par un. Eh bien, monsieur le vicomte a vu? Qui poussa Servon à répondre. J'ai vu un homme qui a été tué d'un coup de couteau dans la poitrine, oui. Alors vous prétendez que cet homme est monsieur de Ganges? Ah, je l'affirme, parce que j'en suis sûr. Et s'il y avait ici n'importe quel croupier de Monte-Carlo, il le reconnaîtrait car il n'est pas changé du tout. Il a sa figure de là-bas, quand il fermait les yeux pendant que la bille tournait dans le cylindre. On dirait qu'il va les rouvrir pour dire « Moitié à la masse !» Pauvre marquis. Il était beau joueur, tout de même, et il ne regardait pas l'argent quand il gagnait, et pas fier avec ça. Il m'a plus d'une fois donné un louis quand j'étais à la côte, conclut Brunachon en guise d'oraison funèbre. Bien sûr, si vous êtes sûr que lui, pourquoi n'êtes-vous pas entré avec moi à la morgue? Demanda Monsieur de Servon pour mettre fin à ces discours qui l'ennuyaient. Mais parce que j'en sortais, répondit Brunachon. Si j'y étais rentré immédiatement, on m'aurait remarqué, on m'aurait peut-être filé. C'est plein de gens de police là-dedans. Ils remarquent les figures et je ne tenais pas à leur montrer la mienne 2 fois en 10 minutes. L'explication parut singulière au vicomte, qui ne savait pas que l'ancien garçon de jeu avait eu, et aurait probablement à faire encore, au juge d'instruction à propos de la mort tragique du marquis de Ganges. Mais il ne perdit pas son temps à demander des éclaircissements. Bien, puisque vous l'avez reconnu, dit-il sèchement, il faut faire votre déclaration à la police. Je préférerais que monsieur le vicomte s'en chargeât. Moi, ah, êtes-vous fou? Comment pourrais-je dire que je le reconnais? C'est la première fois que je le vois. Oh, ouais, je comprends que monsieur le vicomte ne veuille pas se mêler d'une histoire où la justice a mis le nez. Ah, on croit donc à un crime. On a raison d'y croire. Ce pauvre marquis a été trouvé mort sur le talus des fortifications. Il a dû être tué le jour de son arrivée à Paris. L'instruction est ouverte seulement. Le juge ne sait pas encore son nom. Il paraît qu'il n'avait pas de papier sur lui, et comme il n'habitait plus la France depuis des années, ceux qui l'y ont connu autrefois l'ont oublié. La raison de plus pour que vous avertissiez la police. C'est l'avis de monsieur le vicomte? Sans doute, pourquoi cette question? Parce que, je me figurais que monsieur le vicomte préférerait commencer par se renseigner sur ce jeune homme que j'ai vu avec lui aux Champs-Élysées et qui a pris le nom et le titre du marquis de Ganges. Servon ne répondit pas, mais l'objection le frappa. Si j'allais dire à la police tout ce que je sais, je pourrais sans le vouloir compromettre les personnes honorables, continua Brunachon. Et les pauvres diables comme moi doivent y regarder à deux fois avant de se mêler de ce qui ne les regarde pas. C'est pourquoi j'aime mieux me taire. Ça ne veut pas dire que je ne reste pas à la disposition de monsieur le vicomte. Tout ce qu'il me commandera de faire, je le ferai. Je n'ai pas d'ordre à vous donner, répliqua dédaigneusement Servon. Mais monsieur le vicomte peut avoir besoin de renseignements sur n'importe quoi et n'importe qui. Plus tard, comme maintenant, monsieur le vicomte me trouvera toujours prêt à le servir. Servon commençait à se dire que le cas pourrait bien se présenter avant peu, car il n'en avait pas fini avec l'étrange aventure où le hasard l'avait jeté. C'est bien, dit-il, je verrai. Où demeurez-vous? Pour le moment, je demeure nulle part, répondit modestement Brunachon. Et quand j'aurai un domicile, ce qui ne tardera pas, il serait peu convenable que monsieur le vicomte se dérangea. Je pourrais vous écrire. Si monsieur le vicomte le permet, je lui écrirai d'abord pour lui donner mon adresse. J'adresserai ma lettre au cercle et d'ailleurs, à partir de demain, je passerai tous les jours sur le boulevard vers 5 heures, comme aujourd'hui. Monsieur le vicomte, s'il désire me parler, n'aura qu'à me faire signe. J'irai l'attendre derrière la Madeleine. Tout cela a été clair, précis et bien combiné. On pouvait mépriser Brunachon, mais on ne pouvait pas lui contester le mérite d'être un agent plein de ressources et de zèle. Il ajouta « Maintenant, je vais quitter monsieur le vicomte. J'espère qu'il voudra bien m'excuser de l'avoir amené ici, mais je tenais à lui prouver que cet étudiant n'était pas le marquis de Ganges, et pour cela, je devais m'assurer que le véritable marquis était mort. Et vous saviez donc que son corps était à la morgue ? Demanda brusquement le vicomte. Non, répondit Brunachon avec un peu d'embarras. Mais je m'en suis douté quand j'ai lu ce matin dans les journaux qu'on avait ramassé près de la porte de Montrouge le cadavre d'un monsieur bien habillé. L'idée m'est venue, je sais comment, que c'était le cadavre de M. Grange. Une vraie inspiration, cette idée-là, puisque maintenant, je suis sûr que c'est lui qu'on a tué. On n'a qu'à faire venir des témoins de Monte-Carlo. On pourra dresser l'acte de décès. Sa veuve ne serait peut-être pas fâchée qu'on le dressât. Et comme M. de Servan se taisait, peut-être aussi, tel autant que les choses restent comme elles sont, reprit Brunachon en le regardant fixement. C'est une question que je ne suis pas en mesure de décider. Et alors, je m'applique le proverbe, dans le doute, abstiens-toi. Ces réflexions à haute voix agacèrent Servon, précisément parce qu'elles étaient assez justes. Et pour y couper court, il tira de son portefeuille 2 billets de 100 francs qu'il remit à Brunachon en lui disant « Allez, prenez ceci pour payer le cocher qui vous a amené. » « Pas celui qui a amené monsieur le vicomte ?» demanda l'impudent coquin en empochant la gratification, comme il empochait jadis au cercle des moucherons les pourboires des joueurs. « Non, non, je garde la voiture. » « Maintenant, partez. Notre colloque en plein air a assez duré. » Son brûlachon ne le se fit pas dire deux fois. Il fila sans ajouter un mot. Qu'aurait-il ajouté? Son travail était fait. Il avait semé dans l'esprit du vicomte des idées qui ne manqueraient pas de germer et dont il espérait bien tirer quelque profit. Il ne s'était pas compromis et il restait libre de faire chanter ou Paul Cormier ou la marquise de Ganges ou même Monsieur de Servon à son choix. Cela dépendrait de la tournure que prendrait l'instruction confiée à Charles Bardin. Monsieur de Servon était beaucoup moins satisfait de son expédition et il regrettait de s'y être engagé. Tant qu'il s'était s'agi de s'introduire chez la marquise, il aurait tout fait pour forcer son intimité, eût-il dû même abuser un peu de la situation. Mais il entrevoyait maintenant que derrière cette situation, il y avait un drame, et même un drame assez corsé, puisqu'il venait de se dénouer ou de s'engager par un meurtre. Et dans la vie que menait Servon, il n'y avait pas de place pour les drames. Il tenait à sa tranquillité autant qu'à ses plaisirs, et il se demandait déjà comment il allait s'y prendre pour se tirer à l'écart d'une affaire qui pouvait se terminer devant une cour d'assises. Il lui en coûtait pourtant de se désintéresser des malheurs qui menaçait la marquise et de renoncer à pénétrer le mystère de l'existence en partie double du soi-disant marquis Paul Cormier. Le vicomte ne savait vraiment que penser de cet étudiant qui jouait, et pas trop mal, le rôle d'un marquis de la vieille roche. Étudiant, il l'était, le vicomte n'en doutait pas, depuis qu'il l'avait surpris aux Champs-Élysées, causant familièrement sur un banc avec un grand gaillard à chapeau pointu qui, l'avant-veille, menait le branle des pochards à la closerie des Lilas. Brunachon, d'ailleurs, affirmait le fait, et Brunachon devait le savoir, quoiqu'il se fût dispensé de dire comment il le savait. Cet étudiant était-il l'amant de Madame de Ganges? Tout semblait l'indiquer. Monsieur de Servon l'avait vu arriver avec elle chez la baronne Nozulet. Il l'avait entendu annoncer sous le nom du marquis et elle s'était prêtée à cette supercherie puisqu'elle n'avait pas réprimé. Fallait-il donc supposer qu'elle espérait le faire passer indéfiniment pour son véritable mari à peu près inconnu à Paris? Cela pouvait être, ou certaines femmes ont toutes les audaces. Mais alors il fallait supposer aussi qu'elle savait que le vrai marquis ne reparaîtrait jamais. Et de là à conclure qu'elle l'avait fait tuer par son amant, il n'y avait qu'un pas. Le vicomte hésitait à la tirer, cette terrible conclusion. Ni Madame de Ganges, ni Paul Cormier ne lui représentaient un de ces couples adultères qui cherchent le bonheur dans le crime et qui l'y trouvent. Ceux-là sont rares et ils s'y prennent plus adroitement. Ils n'agissent pas comme des enfants, ils ne se mettent pas à la merci de hasard. Il ne s'expose pas à être rencontré par un ami ou même par une simple connaissance du mari supprimé. Et puis, cet amant et cette maîtresse n'avaient pas du tout l'air de criminels. La marquise était douce et gaie. Paul Cormier, moins expansif, mais avait une physionomie ouverte qui inspirait la sympathie. Servon le trouvait à son gré, il aurait eu quelques remords à le tromper avec sa femme au temps où il le croyait marié. Il était donc très porté à croire que ce garçon n'avait pas le moindre assassinat sur la conscience, mais après le voyage à la morgue, il ne pouvait absolument pas en rester là. Il ne voulait pas se mêler de leurs affaires, mais il voulait connaître la vérité. Et à qui s'adresser pour la connaître ? Il regrettait déjà d'avoir congédié Brunachon, qui en savait probablement plus long qu'il n'en aurait dit. Il était un peu tard pour courir après lui, et d'ailleurs il y aurait regardé à deux fois avant d'interroger sur la marquise un pareil drôle. L'interroger elle-même en abordant carrément la question délicate, c'eût été plus loyal et plus digne. Mais le difficile, c'était d'arriver jusqu'à elle. Madame de Ganges avait refusé la veille de recevoir une lettre du vicomte de Servan. À plus forte raison, refuserait-elle de recevoir le vicomte lui-même. À force de se creuser la tête, il finit par en faire jaillir une idée. Il lui vint à l'esprit que le moyen le plus simple et le plus honnête de se renseigner, c'était de demander à Paul Cormier de lui apprendre tout ce qu'il pouvait lui apprendre sans compromettre Madame de Ganges. De le lui demander poliment, doucement, après lui avoir exposé l'embarras où il était, depuis que le nommé Brunachon lui avait montré le cadavre du marquis, et en lui proposant de le servir s'il pouvait lui être utile en cette grave circonstance. Paul Cormier, si le vicomte l'avait bien jugé, ne repousserait pas ses ouvertures courtoises, peut-être même les accueillerait-il avec un certain plaisir. Il devait être embarrassé de sa situation, ce brave étudiant, et très désireux d'en sortir. Monsieur de Servan, en le prenant par la douceur, obtiendrait de lui bien des choses. Un aveu d'abord qui ne serait pas par trop pénible, car un jeune homme peut bien jouer dans une comédie mondaine et passagère un rôle imposé par une femme qui lui plaît. Une fois entré dans ses devoirs, Paul Cormier pourrait bien en venir à se fier à un homme plus expérimenté que ne pouvait l'être un étudiant et à lui demander des conseils, sauf à ne pas les suivre. Et si l'entrevue tournait à la conciliation, Servan se sentait très capable de lui en donner l'excellent, voire même de désintéressé. Servan n'était pas irréprochable. Il se permettait une foule de licences de conduite, mais en dépit de la vie à outrance qu'il menait, Servan avait gardé les sentiments d'un gentilhomme et il était incapable d'abuser de la confiance d'un rival. Et d'ailleurs, il n'avait pas pour Madame de Ganges une de ces violentes passions qui font capituler la conscience d'un amoureux. Non, ce n'était qu'un goût très vif, aiguisé par la difficulté. En s'occupant d'elle, il ne cherchait qu'une liaison agréable, comme il en avait eu quelques-unes dans le monde où il vivait. Toute réflexion faite, il se décida à s'aboucher le plus tôt qu'il pourrait avec Paul Cormier. Il n'espérait plus le rencontrer dans la rue. Les hasards, comme celui qui venait de les mettre en présence l'un de l'autre, n'arrivent pas tous les jours. Le vicomte n'avait donné qu'un moyen de voir le faux marquis, c'était d'aller chez lui à l'adresse indiquée par Brunachon. Servan était persuadé qu'il l'y trouverait. Cormier, en le quittant, lui avait dit qu'il allait rejoindre sa femme qui dînait en ville. Évidemment, il avait menti, puisqu'il n'était pas le mari de Madame de Ganges, et il avait dû rentrer à son domicile de la rue Gay-Lussac. Servan s'y fit conduire dans la Victoria qu'il avait amenée à la morgue et qu'il renvoya en arrivant rue Gay-Lussac. Il était las de rouler en fiacre, et il prévoyait qu'il éprouverait le besoin de marcher après l'explication qui serait peut-être longue. Malheureusement, le portier du numéro 9 lui dit que M. Cormier n'était pas rentré, et au ton de la réponse, Servan vit bien qu'il ne mentait pas par ordre de son locataire. Assez ennuyé de ce contretemps, le vicomte dut se résigner à regagner la rive droite à pied, puisqu'il avait lâché sa Victoria. Il se mit donc à descendre le boulevard Saint-Michel, dans le très vague espoir d'y croiser son homme, mais en lisant sur une maison d'angle le nom de la large rue qui va du Luxembourg au Panthéon, il se rappela tout à coup que l'étudiant au chapeau pointu avait crié à son camarade resté sur le banc aux Champs-Élysées « Va m'attendre au café Soufflot, j'y serai dans 2 heures. » Mais les 2 heures étaient presque écoulées et Paul Cormier n'avait pas dû manquer au rendez-vous. Il ne s'agissait plus que de trouver le café Soufflot. Oh, ce n'était pas difficile. Il devait être situé dans la rue du même nom, devant laquelle Servon passait en ce moment. Et Servon, tournant à droite, s'y engagea immédiatement, sans trop savoir comment il allait s'y prendre, pour y découvrir l'étudiant qui se tenait peut-être au fond de quelque salle avec des camarades. Il eut la chance de l'apercevoir attablé à l'extérieur, tout seul en face d'un verre de vermouth, et absorbé dans la lecture d'un journal du soir. On dîne de bonne heure au Quartier Latin, surtout l'été, afin d'avoir le temps d'aller au Luxembourg en sortant de table. La terrasse du café s'était vidée peu à peu, et il n'y restait guère que Paul Cormier, attendant son ami et se tourmentant de ne pas le voir arriver. Pour tromper son impatience, il s'était mis à lire un journal. Il y avait trouvé un long article de reportage où il était question de l'affaire du boulevard Jourdan, assez mal exposé et présenté comme un assassinat. Paul, que ce fait divers intéressait particulièrement, y apportait tant d'attention qu'il ne vit pas venir M. de Servon, qui put prendre place à la table voisine, sans que le liseur leva les yeux. « Bonjour, monsieur, c'est encore moi !» dit presque gaiement le vicomte. « La journée m'est heureuse à vous rencontrer !»« En effet, » balbutia l'étudiant, « je ne m'attendais pas à me revoir si tôt !» « Et vous devez être étonné de me trouver si souvent sur votre chemin !» Cette fois, le hasard y est encore pour quelque chose, mais le hasard n'a pas tout fait, car, pourquoi vous le cacherais-je? Je viens de chez vous, je ne vous ai pas trouvé, et je vous cherchais. De chez moi, murmura Cormier, qui en était encore à croire que M. de Servon le prenait toujours pour le marquis de Ganges. « Mon Dieu, oui !» dit le comte de l'air le plus naturel du monde. « Je suis allé vous demander Galussac, et votre portier m'ayant répondu que vous n'étiez pas rentré, j'ai pensé que je vous rencontrerais peut-être dans ce quartier. » Paul ouvrit la bouche pour nier, mais il lut sur la figure de M. de Servon que ce serait inutile, et il attendit la suite. « C'est vous dire, cher monsieur, reprit le vicomte, que je sais qui vous êtes. Et je m'empresse d'ajouter que je ne viens pas vous chercher querelle à propos de l'erreur où je suis tombé. Je ne viens pas même vous demander des explications, dans le sens que le plus souvent on attache à ce mot-là. Bon alors, monsieur, je ne vois pas. Laissez-moi achever, je vous prie. Vous n'avez pas plus que moi oublié ce qui s'est passé dimanche chez Madame de Zulé, ni votre rencontre le soir de ce dimanche à la closerie des Lilas. Et tout à l'heure, quand je vous ai revu aux Champs-Élysées, j'en étais encore au même point, enfin, pas tout à fait cependant, car je vous ai trouvé causant avec un jeune homme que j'avais remarqué au bal de Bullier et qui ne peut être qu'un étudiant. Mais maintenant que je suis mieux renseigné, je ne tiens à l'être davantage que sur un seul point. J'ai souvent rencontré dans le monde Madame la marquise de Ganges. J'ai pour elle le plus profond respect, et Dieu me garde de rien faire ou dire qui puisse nuire à sa réputation. Mais ce que je viens d'apprendre, par hasard, d'autres que moi peuvent l'apprendre aussi. Vous avez des camarades qui savent que vous n'êtes pas le marquis de Ganges. Si l'un d'eux, à ce bal dimanche, n'avait entendu vous donner ce titre, vous vous seriez trouvé dans une situation très difficile. Le vicomte ne croyait pas si bien dire, car il n'avait pas vu s'engager la querelle avec le vrai marquis. Ah, cela, reprit-il, il n'y aurait encore que demi-mal, mais qu'un homme reçu dans les salons où va Madame de Ganges vienne à connaître votre véritable nom, qu'arrivera-t-il? De quoi ne l'accuserait-on pas? Eh bien, monsieur, je suis venu vous dire que je serais prêt à la défendre, mais pour que je puisse la défendre utilement, il faut que je sache ce qui s'est passé. Et c'est à vous que je m'adresse pour le savoir. Paul fit un haut le corps et peu s'en fallut qu'il ne s'écria: Mais pour qui prenez-vous? Mais le vicomte s'empressa d'ajouter: Ne vous méprenez pas sur mes intentions. Je ne cherche pas à surprendre le secret de vos relations avec elle. Mais si, comme j'en suis convaincu, Madame de Ganges n'a rien à se reprocher, je voudrais être renseigné afin d'être en mesure de faire cesser les propos malveillants. En un mot, monsieur, je viens vous demander ce que je devrais répondre si on l'accusait en ma présence. Ma démarche vous semble peut-être étrange, mais si vous voulez prendre la peine de réfléchir, vous y verrez une preuve du cas que je fais de vous et de la sympathie que vous m'inspirez. Ce fut si bien dit que Paul Cormier s'abandonna au mouvement qui le poussait à se confier au gentilhomme qui lui donnait ce langage chaleureux et persuasif. Monsieur, commença-t-il avec émotion, je vous crois et je vais vous confesser la vérité. C'est moi qui suis cause de tout ce qui est arrivé. J'ai rencontré dimanche Madame de Ganges, dont j'ignorais le nom et que je n'avais jamais vue. Sa beauté m'a frappé et je me suis permis de la suivre. Oh, suivre une jolie femme dans la rue, ce n'est pas un cas pendable, dit en souriant le vicomte, qui était coutumier du fait. Oui, je l'ai suivie dans les Champs-Élysées, jusqu'à l'avenue d'Antin où elle allait, et là, quand elle est entrée, sans s'apercevoir que j'étais presque sur ses talons dans l'hôtel de cette Madame de Zulé, j'y suis entré avec elle, et le domestique qui annonçait ne connaissait pas Monsieur de Ganges. Et il a annoncé Monsieur le Marquis, Madame la Marquise. Oh, c'est très drôle, et ce serait charmant au théâtre. Vous ne me croyez pas? Mais si! Je vous déclare même que l'idée m'était venue, pas ce jour-là, mais depuis qu'il y avait dans tout cela qu'une méprise. Oh, je m'étonne seulement que Madame de Ganges n'ait rien dit. Ben, elle a perdu la tête. Elle comptait que j'allais me retirer après m'être excusé, et c'est ce que j'aurais dû faire. Mais lorsqu'elle a vu que je restais et que j'acceptais les félicitations que la baronne adressait au marquis de Ganges, elle a continué à se taire. Je comprends maintenant pourquoi elle s'est éclipsée avant la fin de notre partie de baccarat. Oh, vous avez dû être bien embarrassé. Pas trop. J'espérais ne jamais revoir les personnes qui se trouvaient chez Madame d'Ozulé. Vous deviez bien penser, cependant, que je vous enverrais, avenue Montaigne, la somme que je croyais avoir perdue contre le marquis. Je vous jure, monsieur, que je n'y avais pas songé. Et tout à l'heure, quand vous me l'avez remise, j'ai été sur le point de la refuser. Je l'ai bien vue, mais quand vous m'avez rencontré dimanche soir à la closerie des Lilas, vous avez dû me maudire. J'en conviens. Et tout à l'heure encore, en vous voyant paraître, vous m'avez donné à tous les diables. Non, j'espère que vous voilà rassuré sur mes intentions. Maintenant, me permettez-vous de vous demander si vous avez revu Madame de Ganges? Je me hâte d'ajouter que vous n'êtes pas obligé de me le dire. Bon, pourquoi m'en cacherais-je? Je l'ai revue une seule fois, hier, chez elle. Ah, elle vous avait donc donné son adresse. Paul ne s'attendait pas à cette question, et il aurait bien pu rester court, mais il eut la présence d'esprit de répondre « Oh, non, je savais son nom. Je n'ai pas eu de peine à trouver son adresse. Je n'ai eu qu'à feuilleter le tout Paris. » L'explication venait à propos, car pour en fournir une autre, Paul Cormier eût été obligé de dire que c'était le marquis lui-même qui lui avait donné l'adresse de sa femme, et il comptait que cet entretien plein de périls allait en rester là. Paul Cormier n'avait garde de parler de la mort tragique de M. de Ganges. Il croyait avoir fait la part du feu en avouant qu'il s'était laissé donner un nom et un titre qui ne lui appartenaient pas, et il avait eu soin de passer sous silence le commencement de l'aventure, enfin, la rencontre au Luxembourg et le voyage en fiacre du Luxembourg au rond-point des Champs-Élysées, épisode compromettant pour la marquise. Il espérait bien qu'il n'en serait plus question et que M. de Servon ne tarderait pas à lever la séance. Pour l'y décider, il lui dit chaleureusement « Ah, monsieur, je me défiais de vous parce que je ne vous connaissais pas. Maintenant, je n'ai plus qu'à vous remercier de tout mon cœur de m'avoir mis à même de justifier Madame de Ganges, et j'ai le devoir de vous apprendre qu'elle ne me retrouvera pas sur son chemin. » Je suis rentré dans ma peau d'étudiant et je n'en sortirai plus. Oh, vous aurez du mérite à disparaître ainsi, car elle est charmante, la marquise, et vous auriez bien pu aspirer à lui plaire. Est-elle informée de votre résolution? Oui, elle l'approuve. Ah, je comprends, elle est mariée. Peut-être changerait-elle d'avis si elle venait à perdre son mari. Cormier ne dit mot. Il se demandait déjà pourquoi le vicomte lui posait cette question. « Oh, c'est une éventualité à prévoir, » reprit M. de Servon. « Et si Madame de Ganges était veuve, vous pourriez l'épouser. » Oh, en admettant qu'elle voulut de moi. Pourquoi pas? Les femmes aiment les audacieux. Je parierais bien qu'elle vous a su bon gré de l'avoir suivie jusque dans le hall de la baronne. Elle me l'a très amèrement reproché. En pareil cas, les femmes disent toujours le contraire de ce qu'elles pensent. Si j'étais à votre place, cher monsieur, je profiterais de mes avantages pour me faire agréer. Vous ne savez peut-être pas qu'elle est fort riche. Oh, je le crois et peu m'importe, répliqua l'étudiant un peu piqué. Je ne suis pas sans fortune et je ne cherche pas à faire un mariage d'argent. Ben, si je risque à vous indiquer celui-là, c'est que je viens d'apprendre une chose que certainement vous ignorez et qu'il est bon que vous sachiez. Monsieur de Ganges est mort. Qui vous l'a dit? Demanda étourdiment Paul Cormier. Ben, vous le saviez donc? Riposta le vicomte. Non, c'est-à-dire, je supposais. Eh bien, moi, je n'en aurais rien su si un homme qui a connu Monsieur de Ganges ne m'avait pas montré son cadavre. « Son cadavre ?» répéta Paul Cormier, qui pâlissait à vue d'œil. « Oui, cher monsieur, à la morgue où il est exposé. Le marquis est mort de mort violente, on croit qu'il a été assassiné. » Paul eut un geste de dénégation. « Oh, qu'il l'ait été ou non, Madame de Ganges a un gros intérêt à être informée de cet événement, ne fût-ce que pour faire constater le décès qui la rend libre. » À moins qu'elle n'aime mieux, par des raisons que j'ignore, rester dans le statu quo. Mais il me semble qu'elle n'a pas le choix. L'homme qui a reconnu le corps a dû aller faire sa déclaration. Bon, encore, il n'a pas eu le temps perdu, car la reconnaissance vient seulement d'avoir lieu. J'y étais.
Vous, monsieur?
Oui, et c'est ce qui m'a déterminé à me mettre immédiatement à votre recherche. J'ai cru que mon devoir, en cette triste circonstance, était de renseigner Madame de Ganges. Je serais allé chez elle si j'avais craint de n'être pas reçu. Je ne le serai pas plus que vous, dit Paul en secouant la tête. Il ne regrettait guère qu'on n'annonçât pas à la marquise un événement qu'elle connaissait déjà depuis 24 heures. Vous pouvez du moins lui écrire, si vous ne le faisiez pas, je le ferai, car il y a urgence. Oh, pourquoi les mauvaises nouvelles arrivent toujours assez tôt ? Murmura Paul, qui ne disait pas le véritable motif de la tiédeur qu'il mettait à entrer dans les vues de M. Servon. Bon, s'il ne s'agissait que d'une mauvaise nouvelle, que Mme de Ganges connaîtra tôt ou tard, mais un danger la menace. Quel danger ? Demanda l'étudiant. Ah, je ne vous ai pas dit par qui le corps du marquis vient d'être reconnu. Par un de vos amis, je crois. Non, pardon. Aucun de mes amis ne connaissait M. de Ganges quand il vivait. L'homme dont je vous ai parlé est un mauvais drôle qui a fait toutes sortes de vilains métiers et qui a beaucoup vu le marquis de Monaco où il jouait encore tout récemment. Oh, vous allez me demander comment j'ai connu, moi, un individu de cette espèce. Oh, c'est bien simple, il a été jadis garçon dans un cercle où j'allais quelquefois. Je l'ai rencontré un instant après vous avoir quitté. Il m'a abordé pour me demander un secours que je ne lui ai pas refusé, et sans doute, pour me remercier, il m'a appris qu'il venait de voir à la morgue le corps du marquis. Comment sait-il que je connais la marquise ? Je l'ignore, mais il le sait. Comme je n'avais pas l'air de croire beaucoup à la nouvelle qu'il m'apprenait, il m'a proposé d'y aller voir, et par curiosité, j'y suis allé. Pas dans la même voiture que lui, je vous prie de le croire. Il m'a montré sur les dalles de la morgue un cadavre. Il m'a affirmé que c'était celui du marquis, et je ne doute pas que ce soit vrai. Je ne vois pas ce qu'il gagnerait à mentir, tandis que je vois très bien ce qu'il gagnera à exploiter le secret qu'il a découvert. L'exploiter comment ? En faisant chanter Madame de Ganges, en la menaçant, par exemple, de la dénoncer comme ayant fait assassiner son mari. Paul Cormier fit le mouvement d'un homme qui voit tout à coup s'ouvrir à ses pieds un précipice sans fond. Il avait bien eu déjà de vagues inquiétudes. Il s'était demandé si on ne le soupçonnerait pas d'avoir trempé dans un complot organisé pour supprimer un mari gênant. Mais ce malheur était si peu probable qu'il ne s'en était pas beaucoup préoccupé. Et voilà que ses craintes prenaient un corps. Il existait un misérable qui se préparait à menacer Madame de Ganges en lui proposant de lui vendre très cher son silence, comme un autre coquin avait essayé la veille de l'intimider, lui, Paul Cormier, simple témoin du duel où le marquis était resté sur le carreau. Il y avait de quoi s'effrayer et se renseigner afin de se préparer à se défendre. Vous venez de m'apprendre d'où sort ce venimeux gredin, dit-il, et je vous en remercie. Mais je voudrais bien savoir son nom. Oh, il s'appelle Brunachon, répondit sans hésiter le vicomte. Brunachon, c'était le chenapan qui, dans le cabinet du juge d'instruction, avait désigné Paul Cormier comme ayant pris part au meurtre commis sur le boulevard Jourdan. Et ce même coquin avait découvert que Paul Cormier était en relation avec Madame de Ganges, Paul Cormier qui avait refusé de donner 10 000 francs pour obliger le drôle à se taire. C'était un comble, le comble du malheur, ou plutôt de la déveine, car il aurait fallu que la justice eût sur les yeux 3 bandeaux au lieu d'un pour qu'elle en vînt à condamner des innocents, mais c'était beaucoup trop qu'elle les soupçonnât. « Est-ce que vous connaissez cet homme-là ? » demanda M. de Servon. « Non, articula péniblement l'étudiant, mais il se peut qu'il me connaisse. Il me fait l'effet de connaître tout le monde. Mais c'est un peu ça, il a une rude mémoire. J'en ai eu la preuve à la morgue. Et que me conseillez-vous ? » demanda tout à coup Paul Courier. Puisque vous me consultez, je vous conseille de prendre les devants, c'est-à-dire d'aller trouver le juge d'instruction qui est chargé de cette affaire, d'y aller après vous être concerté avec Madame de Ganges, qui est toujours la principale intéressée. Le conseil était peut-être excellent, mais il venait trop tard puisque Paul Cormier avait été interrogé la veille. Jean de Mirande devait l'être au moment où le vicomte parlait, et son camarade s'inquiétait déjà de ne pas le voir arriver. Que faire en attendant qu'il reparût? Comment différer encore de donner une réponse catégorique à M. de Servon, qui, tout en affectant de se désintéresser de la situation, insistait pour tâcher d'en savoir plus long que Cormier ne voulait lui en dire? « Je ne puis rien faire avant d'avoir revu mon camarade, » répondit enfin Paul. « Bon, mais quand le reverrez-vous ? » « Oh, il ne peut pas tarder beaucoup maintenant. »« Oh, j'ai entendu ce qu'il a dit tantôt en vous quittant aux Champs-Élysées, qui serait au café Soufflot dans 2 heures. C'est même ce qui m'a donné l'idée de vous y chercher. » Mais il se peut qu'on le retienne plus longtemps qu'il ne pensait. Dans ce cas, je serais obligé de vous quitter. Cormier devina que si le vicomte levait la séance, ce serait pour courir chez la marquise afin de se donner le mérite de la renseigner le premier sur la tournure que semblaient prendre les événements. Et quoi qu'il en eût dit, Cormier n'était pas du tout disposé à se désintéresser des affaires de Madame de Ganges. D'un autre côté, il craignait de mettre le feu aux poudres en abouchant le vicomte avec Mirande, qui était discret comme un coup de canon. « Ah, mais le voici, votre camarade !» s'écria M. de Servon. « Je vois poindre là-bas l'étonnant chapeau pointu qu'il a l'habitude de porter. » La question était tranchée. L'explication à deux allait se continuer par une explication à trois, car c'était bien Jean de Mirande qui montait la rue Soufflot en se balançant sur ses hanches comme un tambour-major d'autrefois. Et grâce à sa taille de 5 pieds 10 pouces, on l'apercevait aussi loin que s'il eût porté au haut de son feutre un plumet gigantesque. « Eh bien, monsieur, » s'empressa de dire Paul Cormier, « je vais me concerter avec lui, et si vous voulez bien me faire savoir où je pourrais vous rejoindre ce soir, dans 1 heure. »« Ben, à quoi bon perdre du temps ?» répliqua le vicomte. « Présentez-moi ce jeune homme, ou présentez-moi à lui, comme il vous plaira. Mais nous communiquerons les renseignements que chacun de nous a pu recueillir sur cette singulière affaire, et après, eh bien... » Nous délibérons en connaissance de cause. C'est un homme comme il faut, n'est-ce pas? Oh, très comme il faut, mais... C'est bien, ben je vais me présenter moi-même. Ayant dit, le vicomte se leva, Paul se leva aussitôt, et tout surpris de cet accueil cérémonieux, Mirande, qui n'était plus qu'à deux pas, ne put moins faire que de lever son chapeau, en lançant à Cormier un regard qui signifiait évidemment « Qu'est-ce qu'il veut encore cet animal-là ? Et pourquoi est-ce que je le trouve sans cesse sur tes talons ?» Paul jugea prudent de laisser M. de Servon s'expliquer, et M. de Servon commença par une explication qui ne fit qu'embrouiller la situation déjà fort embrouillée. « Monsieur, dit-il, je n'ai pas encore l'honneur d'être connu de vous, mais vous savez comment j'ai connu votre ami, M. Cormier ?»« Bon, moi, je ne m'en doute pas, » répliqua sèchement Mirande. « Nous nous sommes rencontrés dimanche dernier chez la baronne de Zulé, qui recevait ce jour-là quelques dames, entre autres Madame la marquise de Ganges. Bon. » « J'en savais absolument rien, il m'est tout à fait indifférent de l'apprendre. »« Ah, alors vous ne connaissez pas du tout cette marquise ?»« De nom seulement. Gange est un nom du Languedoc et je suis du Languedoc. »« J'ai vu aussi, dimanche soir, un monsieur qui prétendait être le marquis de Gange. »« Seulement mes relations avec lui n'ont pas été de longue durée. » Et Mirande répondait avec une douceur et une prudence qu'on n'aurait guère attendu de lui. Paul Cormier n'en revenait pas. « Maintenant, reprit Mirande, sans élever la voix, j'ai répondu, monsieur, à toutes les questions que vous m'avez posées. Il me semble que c'est à mon tour de vous demander de quel droit m'interrogez-vous ?» J'aurais dû le reconnaître, recommencer par vous le dire, puisque votre ami a oublié de me nommer à vous. Je m'appelle le vicomte de Servon. Et vous, monsieur ?
Moi, je suis Jean de Mirande, et je crois que mon nom vaut le vôtre. J'ignore quelles affaires vous pouvez avoir avec Cormier, et je ne tiens pas à le savoir, mais je veux savoir ce que vous me voulez.
« Je suis venu renseigner votre ami et vous renseigner aussi, vous, monsieur. »«
Sur quoi, je vous prie ?»«
Sur la mort de ce marquis de Ganges dont vous venez de parler. »« Et cela dans votre intérêt comme dans l'intérêt de M. Cormier. »«
Vous êtes vraiment trop bon, » dit l'étudiant avec une grimace ironique.
« Mais je n'ai que faire de vos renseignements. » Ni lui non plus, car je lui en rapporte. J'en ai les mains pleines de renseignements.
Et comme Paul lui lançait les regards pour le prier de se taire,
« Tant pis pour toi, mon cher. Si tu m'avais prévenu qu'il y avait là-dessous je ne sais quelles histoires que je ne connais pas, je ne marcherais pas sur tes plates-bandes. Au contraire, tu m'as poussé à aller voir le juge d'instruction. » Eh bien, j'en sors de son cabinet, après une séance de 2 heures, et je lui ai tout dit. Il sait maintenant que c'est moi qui ai tué l'homme.
Jean de Mirande n'y allait plus, comme on dit, par quatre chemins. Il commençait par dire, devant M. de Servon, « J'ai tué l'homme ». Et M. de Servon était déjà bien assez renseigné pour deviner que l'homme... c'était le marquis de Ganges. Cette déclaration avait au moins l'avantage de simplifier la situation en rendant inutiles les feintes et les réticences. Il ne restait plus à Paul Cormier qu'à confesser franchement au vicomte le rôle qu'il avait joué dans cette affaire du duel. Paul avait eu le tort de s'en tenir avec ce gentilhomme à l'ennemi confidence. Il aurait 100 fois mieux fait de tout dire dès le commencement. À Jean de Mirande non plus, il n'avait pas tout dit, puisqu'il lui avait caché sur l'aventure du Luxembourg et les suites qu'elle avait eues. De là, l'imbroglio inextricable où ils s'agitaient tous les trois. Il était temps que la brusque franchise de l'ami Jean y mît fin. Maintenant qu'il était lancé, il ne s'arrêterait pas en si beau chemin. Et du reste, ni le vicomte ni l'étudiant n'avaient envie d'arrêter ce saint Jean Bouche d'Or, qui allait très probablement, si on le laissait continuer, leur épargner de longues explications.